Bonjour, je m'appelle Amandine Gay, j'ai 41 ans, je mesure 1m77, mais ceci n'est pas un site de rencontre. Je suis une femme noire, adoptée, transraciale, bisexuelle, j'écris des livres, je fais des films ou des séries, et puis, j'aime vraiment bien me promener.
Et bonjour Amandine, et merci d'être venue te promener à Foix, loin de la Seine-Saint-Denis, cette terre d'accueil dans laquelle tu te sens bien parce qu'il y a là-bas plus de personnes noires, racisées, mélangées qu'à Foix ou dans d'autres endroits peut-être un peu trop blancs pour être complètement honnête. Et hello, guten tag, benvenuti a tutti dans deux poils sous les bras, vous entendez, je suis tout excitée par mon invité du jour, enfin par le sujet du jour, mais ça doit être mon côté masochiste parce que, dans les grandes lignes, Amandine Gay n'est pas là pour me brosser dans le sens du poil, elle est plutôt là pour me dire « Alors, blanc, comment ça va ?» De faire semblant de pas voir le problème, de manquer d'exigence intellectuelle, ça va, tu le vis bien ? Le pire, c'est que moi, je le vivais plutôt pas mal jusqu'à présent, sans trop réfléchir ou en refusant de voir certaines choses. Ou plutôt, en les voyant, parce que je vois bien le racisme, je vois bien qu'en tant que blanche, y a pas mal de questions que je n'ai pas à me poser et que d'autres se posent tous les jours. Mais vous savez comment c'est, on a vite fait de se dire « Bon, chacun ses petits problèmes, je peux pas m'occuper de tout. Et moi aussi, j'ai des soucis. » Et j'ai vraiment, mais alors vraiment aucune excuse, parce que je l'ai déjà rencontrée, Amandine Gay. Elle a même été une des toutes premières invitées de Du Poil Sous les Bras en 2018. À l'époque, on a beaucoup parlé d'adoption, sujet très central, très fondateur dans sa vie. Et Amandine Gay a ça de très intéressant, c'est d'être multiple et d'avoir beaucoup à partager. Alors, she's back aujourd'hui pour vous dans Du Poil Sous les Bras, parce que les gens comme elle le valent bien.
Alors les gens comme moi, c'est par exemple Surya Bonali, donc c'est des personnes qui ont été adoptées dans des familles blanches et qui sont des personnes noires, et dans mon cas à l'époque une petite fille noire et maintenant une grande fille noire. C'est aussi des gens qui aiment le chocolat et en particulier un certain chocolatier parisien dont je ne ferai pas la pub mais qui sont les seuls chocolatiers à faire du chocolat sans beurre de cacao, donc c'est des très très fines, voilà, et c'est rue du Nil, voilà, si vous aimez les bonnes choses. Il n'y a que des bons produits rue du Nil. Et les gens comme moi, c'est aussi des personnes qui aiment bien rencontrer plein de monde, voyager. Et donc, je me suis débrouillée pour être dans des genres de jobs qui me permettent de faire ça. Donc, par exemple, autrice, réalisatrice. Voilà, on travaille souvent en groupe. Et puis après, on fait la promotion de nos œuvres. Donc, on rencontre plein de gens.
Et elle en rencontre des gens. Et en général, elle ne laisse pas indifférent. Qu'on l'aime ou pas, elle marque les esprits. Mais venons-en, si vous le voulez bien, au sujet de cette émission. Amandine Gay vient de publier un nouvel ouvrage, Vivre libre, aux éditions La Découverte, dans la collection Cahiers libres aux couleurs très flashy. Je vous sens curieux et curieuse, mais de quoi peut bien parler un livre qui s'appelle Vivre libre ? Eh bien, il y a un indice, un sous-titre, au dos du livre, « Exister au cœur de la suprématie blanche ». Voilà, nous allons parler de la suprématie blanche en tant que régime politique. Pour l'heure, c'est encore un peu flou pour vous, cette histoire de suprématie blanche. C'est bien pour ça que j'ai invité Amandine Gay, et pas vous, pour en parler. Amandine Gay de Le Retour dans ce 74e épisode de Du Poil Sous les Bras, c'est tout de suite dans vos oreilles et dans votre cœur aussi, j'espère.
La petite blanche dans du poil sous les bras.
Alors, dans Vivre libre, Amandine Gay nous invite à faire notre examen de conscience. En tout cas, elle nous invite à un examen honnête de notre passé commun. Et c'est une invitation fort sympathique, car elle nous propose ce chemin pour, in fine, accéder à une réelle humanité.
Alors ce livre, c'est entre autres une invitation. C'est vrai que c'est une chose que je dis aussi au début, il y a trois niveaux d'adresse dans ce livre. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que moi je veux parler de l'oppression raciale comme d'un sujet effectivement commun. Très souvent quand même, on a tendance à présenter, alors je vais dire le racisme au début, puis après peut-être j'expliquerai ce que j'entends par suprématie blanche comme régime politique. Mais on a souvent tendance à présenter le racisme comme si c'était un enjeu qui concernait que les personnes non blanches. Comme si c'était nous seuls qui devions faire face à ça. Or, Pourquoi est-ce que ce seraient les personnes racisées? Donc, encore une fois, au sens où la racisation, c'est un processus. C'est-à-dire qu'on nous, on nous assigne une catégorie. Hein. Moi, je dis souvent, les personnes noires, bah, la couleur de leur peau, c'est marron. Donc, on n'est pas noir. Noir, c'est une catégorie sociale. Blanc, c'est la même chose. C'est une catégorie sociale. Les blancs, ils sont plutôt beige-rosé. Voilà, il y a des nuances. Mais les blancs, ils sont pas blancs non plus de couleur de peau. Donc, blanc, c'est une catégorie sociale. Noir, c'est une catégorie sociale. Arabe, c'est une catégorie sociale. C'est pareil, il n'y a pas un grand pays qui s'appelle l'Arabie. Voilà. Donc, asiatique, c'est une catégorie sociale, etc. Donc, quand je parle de racisation, je parle de ça. Parce que ça peut changer. Moi, par exemple, quand je suis en Hexagone, on va me dire que je suis noire. Mais si je vais au Sénégal, on va me dire « Ouais, la française ». Ou même parfois, on va me dire « Oh, la blanche ». Parce que j'ai des privilèges qui viennent du monde occidental. Puis si je vais en Martinique, dont je suis à moitié d'origine, on va me dire « La négropolitaine ». Parce que là, du coup, bah, je suis une noire, mais je suis une noire de l'Hexagone. je suis pas une noire de Martinique. Donc, c'est en ça que c'est un processus aussi dynamique, la racisation. Donc, les personnes racisées, souvent, on nous présente le racisme comme quelque chose... face auquel, voilà, nous, on devrait s'organiser, etc. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on remette ça dans l'espace commun. S'il y a du racisme, c'est qu'il y a des personnes qui perpétuent le racisme. C'est qu'il y a des personnes qui bénéficient de ce régime d'oppression raciale. Quel est leur rôle là-dedans? Et quel est leur rôle dans son démantèlement? Ça m'intéresse. Donc, c'est sûr qu'il y a un niveau d'adresse dans ce livre qui est au groupe majoritaire de notre pays, hein, puisque c'est un livre écrit par une Française noire née ici, qui a grandi majoritairement ici, etc. Donc, c'est un livre qui s'adresse au groupe majoritaire, aux personnes blanches en France. C'est un groupe qui s'adresse aux personnes racisées en général, parce que aussi, ce système politique d'oppression raciale, donc que moi j'appelle la suprématie blanche, il a un impact sur nos représentations à toutes, et donc il a un impact qui est différencié. La négrophobie, le type de racisme qui touche les personnes noires, ou la misogynie noire, qui est la forme de racisme qui touche les femmes noires, avec par exemple l'hypersexualisation comme chose spécifique qui touche ce groupe-là, et ben c'est pas la même chose que d'autres formes de racisme qui peuvent toucher, par exemple, les femmes asiatiques ou les personnes maghrébines. Et puis, il y a un dernier niveau d'adresse, bah, qui sont les personnes comme moi, qui sont les personnes noires, et dont je sais qu'elles ont aussi besoin d'entendre certaines choses. Voilà, moi, comme je dis, maintenant, j'embrasse le fait que je suis une noire bizarre. Pendant très longtemps, j'étais gênée par le fait d'être une noire bizarre. Et maintenant, je me dis, voilà, je pense que c'est aussi important pour nous de voir les endroits où nous aussi, on est agi par ce régime d'oppression, parce que justement, il suffit pas d'être une femme pour pas être agi par le patriarcat, et il suffit pas d'être noire pour ne pas être agi par la suprématie blanche.
Ceci étant dit, il nous faut aller plus en avant dans la compréhension de ce qu'est la suprématie blanche dont parle Amandine Gay. Parce que, comme elle l'explique, si l'on veut renverser les systèmes d'oppression, il faut que nous comprenions comment ces derniers fonctionnent et sur quoi ils reposent. Et dans le même temps, il faut, je cite à peu près, que nous ayons de l'honnêteté et de la rigueur intellectuelle et morale et que nous soyons capables de dialogues sincères et de suffisamment d'ouverture aux autres pour faire face ensemble. Alors, quel est ce régime politique de la suprématie blanche ?
Mais je pense que un moyen de comprendre ce que je veux dire par suprématie blanche comme régime politique, c'est de prendre justement une anecdote de quelque chose qui s'est passé dans ma famille. Donc ma famille est majoritairement blanche, hein. J'ai un grand frère qui est noir et qui est adopté lui aussi, mais nous on est deux seuls noirs de notre famille, tout le reste de la famille est blanc. Sauf après il y a des petits-enfants qui sont racisés et tout, mais en tout cas ma génération et au-dessus, tout le monde est blanc. Et il y a quelques années, je crois, en 2016, j'avais mis un poème sur les réseaux sociaux à l'occasion de mon anniversaire, etc. Et je terminais le poème en disant « J'ai grandi au cœur de la suprématie blanche et j'ai survécu ». Et là, du coup, ça a créé une espèce de grosse panique dans ma famille. Il y a des personnes qui ont appelé ma mère pour lui dire « Mais pourquoi est-ce qu'Amandine dit qu'on est des suprémacistes blancs ?» Dans cette idée que bah, c'est vrai qu'en France, quand on utilise le terme suprématie blanche, on pense au Ku Klux Klan. On pense voilà, aux mecs avec des capes, des chapeaux pointus, etc. dans le sud des États-Unis. Et donc là, je me suis rendu compte qu'effectivement, comme moi, j'avais beaucoup évolué aussi déjà dans les milieux anglo-saxons, ou en tout cas que j'avais accès à de la littérature, des faits féminisme noir britannique, états-unien, ou en tout cas des théories en sciences politiques, en philosophie, où on parlait de la suprématie blanche comme d'un régime politique, au même titre que le patriarcat est un régime politique, pour moi c'était comme un acquis. Mais c'est vrai que c'était pas du tout un acquis dans l'espace francophone, et ça l'est toujours pas d'ailleurs. Et moi je trouve que c'est important qu'on ait un terme, je dirais un peu parapluie, c'est-à-dire qui englobe, justement j'ai dit un peu plus tôt que pour moi c'était compliqué le terme de racisme, parce qu'il fait référence à tellement de choses. Le racisme, ça peut être le racisme scientifique du 18e siècle. Le racisme, ça peut être ce qu'on appelle des micro-agressions racistes ou du racisme quotidien. Mais ça peut aussi être le racisme systémique. Mais ça peut aussi être le racisme médical. Et du coup, je trouve qu'on a un problème quand on a des termes qui sont pas assez précis ou qui sont si divers qui permettent pas de représenter la dimension structurelle. Que c'est quelque chose qui sous-tend. Il y a un système d'oppression raciale qui sous-tend le fonctionnement de nos sociétés occidentales. Et ce système-là, c'est la suprématie blanche. Et pour moi, c'est important parce que finalement, le racisme, c'est un des sous-produits de la suprématie blanche. Mais elle en a plusieurs. Et donc, c'est ça que j'essaie de faire rentrer, on va dire, dans l'espace public francophone. C'est cette notion que, comme tout régime politique, elle va venir s'inscrire dans le monde médical, dans le monde de la connaissance, dans le monde légal, dans les relations individuelles. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'en utilisant ce terme-là, on sort d'une vision un peu émotionnelle, dépolitisée ou juste interpersonnelle de ce que peuvent être les discriminations raciales, la violence raciale. Parce que sinon, souvent, quand on parle de racisme, on en revient très vite à la question de « je suis pas raciste ». Moi, en tant qu'individu. Et ça, ça nous aide pas, en fait, à démanteler la suprématie blanche comme régime politique. Parce qu'en fait, les individus, ils ont des biais. Donc on peut avoir des biais sexistes, on peut avoir des biais racistes. Ça veut pas dire qu'on est forcément un raciste convaincu. Ça, je le dis au tout début du livre. En fait, on peut bénéficier de la suprématie blanche comme régime politique sans être raciste. De la même façon que plein d'hommes n'ont pas besoin d'être violents avec leur conjointe pour bénéficier du patriarcat. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est de me dire, essayons d'être le plus précise possible avec les termes, de bien démontrer qu'est-ce qui relève du structurel, du systémique, de l'ordre qui a été construit dans le temps, au travers de l'histoire, au travers, encore une fois, du savoir, de la connaissance, pour ensuite pouvoir identifier ces manifestations et là, pouvoir travailler à casser ce système.
Prenons mon exemple. Moi, je peux dire, je ne suis pas raciste. Enfin, je crois. Du moins, j'essaye de ne pas l'être. Mais je suis blanche et je suis plutôt pas trop dérangée par la suprématie blanche, du coup. Alors, j'ai deux options. Continuer de ne rien faire ou bien agir pour que les personnes écrasées par la suprématie blanche ne le soient plus. Et c'est à cela qu'Amandine Gay nous invite à être exigeants humainement, à ne pas être médiocres, peureux, renfermés sur notre petit confort. C'est pas si simple, quand on est blanc, bien pensant, de gauche, qu'on se croit humaniste. Pas simple de se laisser pénétrer par la pensée de cette femme noire bizarre qui nous dit de façon très directe « universalisme piège à con, sors un peu de ton ignorance, de ta mauvaise foi, de l'illusion et de la dérobade qui sont les quatre piliers de ta vie de blanc ». Pas sûr que tout le monde soit prêt à entendre ça.
Oui, moi, par définition, je sais qu'on peut jamais parler à tout le monde. Déjà parce qu'en fait, pour parler à quelqu'un, il faut que cette personne ait envie d'écouter. Donc, c'est sûr que par définition, moi, mon travail, en général, il s'adresse aux personnes de bonne volonté. Ce que je dis souvent, c'est que, ayant grandi dans des milieux quasi intégralement blancs, moi, je suis très douée pour déceler les personnes qui sont des êtres humains au fond. Parce qu'en fait, ce que font les régimes d'oppression, que ce soit le patriarcat, que ce soit la suprématie blanche, que ce soit l'hétéronormativité, que ce soit le validisme, c'est qu'ils déshumanisent les dominants. Les dominants, ils n'ont pas accès à leur empathie. Où ils ont accès à une empathie qui est énormément tronquée. Et donc, ils ont du mal à s'imaginer à la place des autres, à être capable de se décentrer, à être capable d'écouter. C'est ça, la première barrière. Et moi, du coup, quand j'étais plus jeune, c'était très facile pour moi parce que il y a quelque chose qu'on sent, et puis parfois ça nous est dit aussi, on peut nous faire, quand j'étais petite, je pouvais manger chez des amis dont les parents tenaient des propos hyper racistes à table, donc là, c'était très transparent qu'il n'aimait pas les gens comme moi. Même s'il pouvait me dire en même temps, mais toi, t'aimes bien. J'étais genre, bah oui, mais enfin bon, si tu détestes tous les noirs sauf moi, moi, je le prends quand même pour moi. C'est compliqué de me dire, ah bah non, bah ça va alors. Donc, soit c'était très frontal, mais parfois c'est plus subtil. Et donc, pour moi, en fait, je me rends bien compte que quand les personnes n'ont pas été intégralement coupées de leur humanité, elles sont capables de se mettre à écouter parce que elles sont curieuses, parce que elles ont justement une capacité de décentrement, etc. Et en fait, moi, c'est à ces personnes-là que je m'adresse en général. C'est-à-dire, je sais pas comment les décrire autrement que les personnes de bonne volonté. Et donc, du coup, je suis pas certaine d'ailleurs que ce soit plus facile à entendre ce livre pour des personnes de gauche et qui se considèrent progressistes. Je pense d'ailleurs que les personnes qui ont le plus de mal à écouter et à recevoir mon propos très souvent, et je l'ai très bien vécu, et j'ai beaucoup vécu quand j'ai travaillé sur la question de l'adoption, parce que la plupart des gens qui ont adopté, en particulier dans les années 60 à 90, 2000, étaient des gens de gauche ou se considérant comme de gauche, progressistes, etc. Et quand on leur dit « mais vous avez exercé un pouvoir en allant chercher des enfants dans les pays du Sud, en ramenant des enfants non blancs dans vos familles blanches sans vous poser la question de ce que ça allait leur faire, en n'écoutant pas quels étaient leurs besoins de personnes adoptées, etc. », ces gens-là ont eu beaucoup de mal à se décentrer. Mon discours les a beaucoup heurté. Alors que, par exemple, dans mon parcours, parce que j'ai fait aussi, je suis allée à Sciences Po, etc., moi, il y a quand même pas mal de personnes dans mon entourage à qui je demande pas forcément où ils votent, mais où je sais que c'est pas à gauche. Et c'est parfois les personnes de mon entourage qui se sont décentrées le plus vite quand j'ai commencé à travailler sur les questions raciales. Parce que ce sont justement pas des personnes qui ont lié leur identité à leur militance politique. Très souvent, ce qui se passe dans les gauches, les milieux progressistes, je ne sais pas trop comment les appeler parce que c'est aussi des milieux très disparates, mais on va dire ça comme ça, c'est que les personnes sont convaincues d'être dans le camp du bien et donc d'être des bonnes personnes. Et ça, c'est toujours très dangereux parce qu'en fait, on est des êtres humains et il y a toujours des axes sur lesquels on est dominé, mais il y a toujours des axes sur lesquels on est dominant. Donc oui, un ouvrier, il peut être victime du capitalisme, mais quand il rentre chez lui, il est dominant vis-à-vis de sa femme. Et oui, une femme blanche, elle peut être écrasée par le patriarcat, mais elle peut aussi être bourgeoise et déléguer la charge des enfants et le ménage, etc., à des femmes racisées, à des femmes plus pauvres, etc. Donc, c'est toujours important d'être capable de faire face aux endroits où nous sommes, nous, les potentiels oppresseurs, où nous sommes, nous, les potentiels agresseurs. Encore une fois, soit activement, mais soit simplement par notre inactivité, parce que la passivité, c'est une forme d'adhésion. Si on ne s'oppose pas à un système d'oppression, on en bénéficie et on le perpétue. Donc moi, en fait, je souhaite parler aux personnes qui ont envie d'entendre. Je pense qu'il y a des gens qui sont très doués pour, par exemple, essayer de sortir les gens d'extrême droite de leur vision du monde, etc. Et moi, je dis, voilà, c'est aussi des gens qui ont été biberonnés à la haine. On parle très peu de ce que c'est que ces jeunes personnes qui grandissent dans des familles de droite, d'extrême droite, etc. Et on leur apprend à haïr les autres. On leur apprend à pas reconnaître les autres comme des êtres humains dès le plus jeune âge, etc. Donc ça, pour moi, c'est un travail qui relève presque de la sortie de secte. Et c'est pas un truc que moi j'ai envie de faire. Je pense que c'est les personnes blanches qui doivent sortir les personnes blanches haineuses de leur haine. Nous, on est déjà assez impactés par la suprématie blanche pour en plus s'occuper des blancs perdus, là. Mais les personnes de bonne volonté, moi, je pense que, en tout cas, c'est à elle que je m'adresse. Ce livre, il s'adresse à ces personnes-là, et je crois que quand on est foncièrement humain, on a la capacité d'être un peu bousculé, mais de se dire, ok, si ça m'a bousculé, c'est que j'ai peut-être un truc à travailler, et donc que ce soit le début de quelque chose. Voilà.
Magava više te ova muči mi Dostapeli mi ja svi zbog diskriminacija Koja primi nekako taro murša
Ma to ve jadno Da će retu džando Da vas da to vas u promande Hema kuđu vliju me I meka bori nama Ravnopravno srtu te Iako a me ne
di che la verciane.
Ma te ho veia de no, te ci retugiando. Te vas de to va su promande, e ma co giuvliu me. I me capori na maravno pramno sartute. I ako amene co di che la
srce, glasa nisam imala otkad sam videla nasilje na ženama. Otac je tuko majku pred mojim očima, vikao je psovo, meni strah je u venama. Dala sam reč svojim sestrama, mama više neće biti u suzama. Daću sve od sebe samo da prestane nasilje na ženama.
Džando na ijana kotova svazni džan.
Nisam odad marela medaja.
Ma te ove jadno.
Te će retu džando.
Te vas je to vas u promande.
Džuvliju me, džuvliju me.
Moje reči su prazne zato što sam žensko. Šta god da kažem, misli će da lažem. Ludim se i ludim iz tog lošeg sna. Ako nastavim da čudim, stići ću do zna. Pozivam se žene sa sudbinu ko mojim, da borimo se jako za neko bolje sutra, za jutra i dane. Nasilje na ženama mora će da stane.
Ma te ube jadno, te će redu džando. Te vas je to vas u promande, hema ko ću vliju me. I me ka bori nama ravnopravno sartute. I ako mene ko dike laverčane.
Ma te ube jadno.
Pravno. Na leđima je teret, vremenom sve teži. Od problema ne beži, na vreme sve reši.
La petite blanc dans du poil sous les bras.
Pour celles et ceux qui ont la chance d'écouter cette émission dans sa version FM, vous venez d'entendre Ravno Pramno, un tube des rappeuses roms de Pretty Loud. Pretty Loud qui est un des premiers girls band roms, un groupe de filles engagées, féministes, puissantes, des artistes à suivre. Reprenons le fil. Il y a une notion qui revient dans le livre d'Amandine Gay, c'est l'empathie. Il va falloir qu'on soit capable d'aller vers l'autre, de le comprendre, de le croire, d'avoir envie de faire confiance. C'est une invitation à faire de l'amour une pratique politique. Amandine Gay réussit à transformer sa colère, sa rage de vivre libre, en quelque chose de très positif. Elle donne envie, et moi je trouve ça très fort chez elle, cette énergie constructive qu'elle nous transmet.
Moi je crois vachement à... Je sais pas comment dire. Je crois au fait de lutter à des choses qui ont été présentées comme niaises et comme illusoires ou pas réalistes. Et en fait, les lendemains qui chantent, c'est un vrai programme. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on est militante? Pourquoi est-ce que on s'organise, on travaille, on passe du temps sur ton temps libre, tu fais ton émission de radio et tout? C'est parce qu'on pense qu'on peut changer la société, c'est parce qu'on pense que ça peut être mieux après, c'est parce qu'on pense qu'on peut mieux vivre ensemble, qu'on peut être plus heureuse. Et ça, je trouve que c'est aussi une chose où il y a plein d'endroits où pour moi, dans les gauches, les progressismes, encore une fois, peu importe comment on veut les parler, de mon point de vue, on passe trop de temps à essayer de répondre à la droite, à l'extrême droite, de leur prouver des choses. Moi, j'en ai rien à foutre. Le monde auquel moi je crois, je pense qu'il va faire du bien à tout le monde. Et donc, du coup, si des personnes en face veulent le dénigrer et me dire que je suis niaise et que je suis trop optimiste, c'est leur problème. Moi, je crois en la capacité de l'être humain de changer, d'évoluer, d'apprendre. D'ailleurs, on n'en serait pas là. Enfin, je veux dire, on n'est pas les seuls mammifères. Donc, on a des compétences quand même en tant qu'être humain. On est capable de faire des belles choses, on est capable de collaborer, etc. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de construire là-dessus? Pourquoi est-ce qu'on est tout le temps dans des discours aussi pessimistes et que la nature humaine, elle serait pourrie, etc. C'est pas vrai, en fait. Il y a plein d'exemples qui nous prouvent que c'est pas vrai. Mais ça demande une certaine exigence vis-à-vis de soi-même. Et donc ça demande d'avoir envie, effectivement, d'être la meilleure version de soi-même. Mais je pense qu'on peut le voir comme comment est-ce qu'on contribue à la société. On n'est pas des individus isolés. On vit en communauté. Alors on vit plus ou moins en communauté, mais on vit en communauté. Si on se disait chacun, chacune, qu'on a la responsabilité de faire en sorte que cette communauté, elle fonctionne bien, qu'on est là pour prendre soin des gens autour de nous, etc., ça fonctionnerait différemment. Et donc pour moi, parler de l'empathie d'un point de vue politique, c'est aussi ça. C'est de montrer que c'est pas une donnée naturelle. L'empathie, elle se construit. On le voit très bien, par exemple, dans les pays nordiques. que ce soit voilà, Danemark, Suède, Islande, etc., ils ont des vraies réflexions sur comment travailler l'empathie chez les enfants dès les sections de maternelle, etc. Donc, on est dans une approche, encore une fois, très concrète, très sociale, de comment est-ce qu'on peut faire progresser nos sociétés en faisant progresser l'empathie chez les enfants dès le plus jeune âge. Donc, pour moi, l'enjeu, c'est de se dire, OK, c'est pas une donnée naturelle, donc qu'est-ce qui coupe, encore une fois, les dominants, les oppresseurs de leur empathie ? Comment est-ce qu'on peut amener les gens à développer leur empathie ? Et pour moi, pour les adultes, ça passe par, effectivement, développer les capacités d'écoute. Et c'est pour ça aussi que moi j'ai été beaucoup dans l'audiovisuel. Parce que je me suis rendu compte, après des années de militance, etc., et en plus quand même dans le contexte français, où on est beaucoup dans la joute verbale, dans la volonté de dominer l'autre, plus que dans la volonté d'avoir un vrai échange, où peut-être l'autre pourrait se déplacer, mais pas genre, j'ai gagné. Voilà. J'ai gagné la joute verbale, etc. Puis l'autre, en fait, est humilié, et ça va absolument rien changer sur sa vision du monde. Donc, pour moi, la question, c'est de me dire bah, qu'est-ce qui fait qu'on peut déplacer les gens. Et les films, par exemple, l'audiovisuel, c'est un endroit qui est fantastique pour déplacer les gens. Ce que je dis souvent, c'est très rare que dans les salles de cinéma, les gens se lèvent en disant « je suis pas d'accord ». Et donc du coup, bah, quand on fait un film comme « Ouvrir la voie », mon premier, où pendant 2 heures, des femmes noires parlent de leur vie, etc., pour plein de personnes blanches, c'était la première fois de leur vie qu'ils écoutaient des femmes noires parler de leur vie pendant 2 heures sans leur couper leur parole, sans dire oh, « ben moi, je suis pas raciste », etc. Et je sais que ça a transformé plein de personnes blanches, où ça a été une première étape de se dire « ah oui, mais j'ai jamais entendu ça ». Une autre chose que je dis souvent aussi, c'est qu'il y a plein de personnes blanches qui viennent me voir en me disant « oui, mais moi, je connais des Noirs et ils m'ont jamais parlé de questions de racisme, etc. » Et je leur dis « mais peut-être qu'ils se sentent pas à l'aise. C'est pas parce qu'ils vous en parlent pas qu'ils ne vivent pas les agressions racistes. » Alors, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles les personnes noires autour de vous vous en parlent pas. Tous les systèmes d'oppression produisent de l'aliénation. De la même façon qu'il y a des femmes qui vont dire « je suis pas féministe, mais », il y a des personnes noires qui vont vous dire « oh non, 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 moi j'ai jamais vécu de racisme ». Puis quand vous commencez par contre à leur poser des questions très concrètes sur comment s'est passée leur carrière, etc., vous allez voir qu'en fait, dans les récits, il y a du racisme, mais peut-être qu'ils le lisent pas comme tel. Et puis il y a aussi les personnes qui, comme moi d'ailleurs, font très attention à qui elles parlent de quoi. Parce que c'est très décevant aussi, quand on a des gens qu'on aime, quand on a des amis à qui on raconte quelque chose qui nous est arrivé et qui nous a vraiment blessé, qui a été une situation d'émulation, et que cette personne, elle vous répond « oh, mais t'es sûr ? Oh, mais peut-être t'exagères ? Ben, c'est pas sûr que c'était ça. » Et vous, vous savez que c'est ça. Vous avez passé 35 ans dans votre vie de femme noire, etc. Vous savez très bien quand la personne en face, le médecin en face, est condescendant, vous parle mal ou veut pas vous donner de morphine ou d'antalgique parce que vous êtes noire. Et donc, en fait, il y a une double violence, c'est-à-dire qu'on vit une agression à l'extérieur. Et quand on essaye de se confier à notre entourage blanc, si ces personnes-là minimisent ou nient notre expérience, ben en fait, ça nous déçoit tellement qu'on n'a plus envie. Donc c'est aussi pour ça, souvent, quand vous êtes une personne blanche, que les gens racisés autour de vous, ils vous en ont pas parlé. Ça veut pas dire qu'ils le vivent pas.
Amandine Gay est noire. Ce n'est pas un scoop, normalement ça ne vous a pas échappé, sinon réécoutez le début de l'émission. En tout cas, comme Bell Hooks, une autre femme noire en l'occurrence, elle pense qu'il faut revendiquer le droit à avoir une vie belle quand on est une femme noire. Amandine Gay s'adresse aux femmes noires, mais le propos touche bien au-delà de la seule oppression en raison de la race. J'entends évidemment race au sens social, comme le pense Amandine Gay. Si ce n'est pas clair, lisez le livre ou lisez aussi Race, pourquoi pas, de Sarah Mazouz chez Anna Moza.
Moi, en fait, je pense qu'il n'y a pas de... Je pense que les mécaniques d'oppression, elles sont presque toujours les mêmes. C'est-à-dire, encore une fois, de ne pas se décentrer et de ne pas se demander si le monde est fait pour toutes les personnes qui l'habitent. Et si on regarde ça comme ça, la question du validisme, donc de toutes les discriminations qui concernent les personnes handicapées, elle est tellement manifeste comme étant similaire ou en tout cas comme répondant à plein d'autres discriminations. Moi, c'est vrai que je suis très, on va dire, passionnée de la question de la domination adulte, hein, donc de l'oppression des enfants par les adultes, etc. Et cette oppression, par exemple, elle passe par le fait que, en termes architecturaux, en termes d'urbanisme, en termes d'organisation physique de l'espace, rien n'est pensé pour les enfants. Tal Peter Bromerx, qui était cette personne qui a beaucoup travaillé sur la domination adulte, qui a écrit un livre qui s'appelle « La domination oubliée », donc sur la question de l'oppression des mineurs, des enfants, etc., donnait souvent cet exemple-là. Il disait, bah, l'enfance, c'est ce moment où rien n'est accessible. Les poignées de porte sont trop hautes, les marches sont pas à la bonne taille, tout est compliqué en fait. Quand vous êtes un enfant, vous asseoir sur une chaise, aller aux toilettes, etc. À partir de la domination adulte, on peut complètement penser le validisme. Parce que qu'est-ce que c'est le validisme ? C'est une société qui ne permet pas aux personnes handicapées de vivre correctement. En fait, on pourrait tous aller dans la même école. Moi, je suis en couple avec une personne italienne qui a été, pendant toute sa scolarité, avec des personnes handicapées parce que ça faisait partie de la réflexion en Italie. Et donc, en fait, les écoles étaient accessibles. Donc, lui, il a quasiment eu aucune de ses années de scolarité sans personne en fauteuil. Moi, je pense que les premières personnes en fauteuil que j'ai croisées dans ma scolarité, c'était à l'université. Donc, la mixité, par exemple, sur des questions de handicap. Je veux dire, on apprend plein de langues à l'école, et maintenant on fait apprendre des langues aux enfants dès le primaire. Pourquoi il n'y a pas la langue des signes française ? C'est un choix politique, ça aussi. Donc en fait, une société qui ne permet pas à tout le monde de profiter de l'espace public, hein, le célèbre toilette pour personnes handicapées qui sert de stockage dans les bars. Donc en fait, finalement, les personnes handicapées, elles peuvent pas aller pisser. Bon, je veux dire, c'est alors la rampe inexistante, etc. Ça, ce sont des choix politiques en fait. Le vivre ensemble, il se construit politiquement. Est-ce que les lieux sont accessibles aux enfants, aux personnes handicapées, etc. Donc moi, c'est vrai que j'aime bien. Je fais souvent appel à toutes les formes d'oppression en miroir justement de la suprématie blanche, etc., pour montrer que au fond c'est quand même tout le temps la même dynamique. C'est quand on est dans une posture dominante, et c'est vrai que j'en parle aussi dans le livre, c'est normal d'avoir des points morts dans nos réflexions. On vit pas tout. Moi, je veux dire, je suis pas handicapé, je suis valide. Donc il y a plein de questions que je me posais pas jusqu'à ce que des personnes handicapées m'interpellent sur le sujet. Et bien sûr que sur le coup, bah voilà, moi aussi, je me pense bonne militante, etc. J'ai pas aimé être prise la main dans le sac de mon incompétence sur ce sujet-là. Mais une fois passé le moment d'ego où je me dis, oh non, merde, bah j'y avais pas pensé, je peux juste répondre la vérité et dire à ces personnes-là, j'y ai pas pensé, je vais demander au bar si on peut mettre une rampe. Et puis ça a été le début de ma conscientisation sur la question du handicap, et ça m'a amené beaucoup de choses positives. C'est toujours compliqué aussi comme discours, parce qu'on est dans un monde capitaliste, donc très vite ça fait un peu le truc utilitariste, genre bah, c'était bon pour moi aussi. Je sais pas comment le dire, mais encore une fois, on vit en société. Est-ce qu'on a envie de vivre avec tout le monde ? Moi, j'ai envie de vivre avec tout le monde. Donc si je me rends compte qu'à un moment donné, je perpétue des espaces où les personnes handicapées n'ont pas accès, ça me fait chier. Donc je me dis, est-ce que je peux changer ça ? Donc je commence à mettre des sous-titres sourds et malentendants sur mes films. Puis du coup, bah ça attire une interprète langue des signes française qui est Eve Caristan, qui me propose au début donc des projections d'Ouvrir la voie, là il y a 8 ans maintenant, de faire de l'interprétariat gratuit. Et donc du coup, ça ramène des personnes sourdes et malentendantes. Et moi, je veux dire, j'ai un public fidèle depuis du coup 8 ans de personnes sourdes et malentendantes qui viennent aux projections de mes films, etc., au lancement de mes livres, parce qu'ils savent que mes événements, pas tous, parce que c'est un coût et que très souvent c'est une bataille, bon voilà. Et aussi c'est vrai, on est dans des milieux où il n'y a pas d'argent, donc on ne peut pas demander à toutes les librairies indépendantes de France de faire venir des interprètes LSF, parce qu'elles tiennent à peine debout. Mais par exemple, quand on va dans des institutions, je veux dire, moi je suis intervenu par exemple à l'Institut National de l'Audiovisuel, tous les lieux qui ont des mandats de service public devraient avoir des interprètes. Normalement, un mandat de service public, ça doit être accessible à tout le monde. Bah, dans ces lieux-là, moi, je demande au sens de, je dis, bah, s'il n'y a pas d'interprète à l'ESF, je viens pas. Et je pense que c'est ça aussi la question de la responsabilité, c'est dépendamment du niveau de pouvoir qu'on a. Alors bon, moi, ce que je dis, je suis du documentaire et j'écris des essais, je suis pas non plus une meuf qui a un pouvoir monumental. Mais si je suis invitée dans un lieu qui a des missions de service public, bah, je leur dis, je viens pas si c'est pas accessible en fauteuil, et je viens pas s'il n'y a pas d'interprète à l'ESF. Ça veut donc dire aussi, parfois, que je perds des contrats. C'est aussi ça, de demander de plus de justice sociale. Et c'est ce que je dis dans le livre. Si votre engagement, il a pas un coût, c'est qu'il vaut pas grand chose. S'engager pour des luttes qui en plus ne nous bénéficient pas directement et qui parfois effectivement vont, par exemple, nous octroyer des réputations de personnes difficiles. Moi, j'ai la réputation d'être une personne difficile parce que je fais ce genre de demandes. Et donc, du coup, parfois, on va préférer inviter des personnes moins difficiles. Moi, j'ai pas l'impression que je suis difficile. Mais je sais que ça existe. Donc, je sais que ça a un coût, ce que je fais. Mais il faut accepter.
Pas difficile, exigeante, elle est, Amandine Gay. Et cette exigence l'a poussée à se connaître, à s'accepter. Et si elle est aussi bien ancrée dans sa vie aujourd'hui, c'est grâce à cette exigence. Elle s'est construite avec l'adoption, avec sa bisexualité, avec ses origines, avec ses désirs. Elle a embrassé toutes ces facettes de sa vie. Et ça n'a pas été simple, ne serait-ce qu'en tant que noire adoptée par des blancs. Pouvoir faire famille, ben c'est pas évident, alors même qu'on a tous et toutes, je pense, besoin de faire famille, au sens de faire groupe, de se sentir appartenir.
Moi, c'est vrai que ma situation familiale, même dans l'adoption transraciale, elle est particulière, parce que très souvent, les personnes adoptées grandissent, donc non blanches, qui grandissent dans des familles blanches, vivent beaucoup de racisme intrafamilial. Et ça n'a pas été mon expérience. Donc, je dirais que mon expérience, elle a été particulière et elle m'a structurée, je pense justement aussi dans cette idée que je sais que des personnes blanches peuvent être humaines. Je pense que peut-être j'aurais pas pu mener le travail que je fais aujourd'hui si j'avais grandi dans une famille où il y avait du racisme intrafamilial. Je pense que ça aurait été trop. J'aurais peut-être été consumée par la colère, le désespoir, etc. Mais il y avait quelque chose de très étrange pour moi de me dire comment c'est possible que mes parents soient mes parents. Et même souvent, j'ai beaucoup blagué en disant, la preuve de mon adoption réussie, c'est que moi, effectivement, je pense que j'ai un peu les mêmes traits qu'ont toutes mes cousines. On est toutes, et on a même des, moi, j'ai même hérité des choses. Par exemple, j'ai peur de l'eau, etc., parce qu'il y a eu un drame, mais ma mère et ses sœurs, donc du côté de ma famille maternelle, il y a eu un garçon qui était l'aîné et qui s'est noyé dans une petite bassine à 2 ans, etc. Et ça a créé tout un truc autour de l'eau dans ma famille, ma mère et ses sœurs ont appris à nager à l'âge adulte. Donc pour elles, c'était très important que nous, on apprenne à nager enfant. Mais il y avait une espèce de pression sur la piscine. Moi, je détestais la piscine, mais il fallait aller à la piscine parce qu'il fallait savoir nager et tout. Et donc, il y a un côté où... moi, j'ai vraiment pas senti de différence, même au niveau de mes grands-parents. Ça, c'est très rare, par exemple. Sur le fait que j'étais noire, je l'ai beaucoup expliqué dans le livre précédent aussi. Moi, j'ai eu des poupées noires. Ma mère avait un ami noir et pas celui de Nadine Morano, une vraie personne qu'on fréquentait. En plus, quand j'étais petite, on allait à la messe et tout. Donc, c'était un diacre guadeloupéen. Donc, on allait aux messes guadeloupéennes. Je mangeais des acras. Enfin, donc, j'ai quand même eu des accès. Et puis, quand j'ai grandi et que mes parents aussi ont vu que c'était très important pour moi de fréquenter des personnes noires, j'ai été encouragée. Ils m'ont laissé partir à 13 ans avec la famille d'une copine parce que c'était des Afro-Américains. Ils m'ont emmenée aux États-Unis. J'ai passé un mois dans une famille noire sans mes parents, etc. Donc, je veux dire, pour leur époque, ils étaient vraiment très, très en avance. Et je pense que c'est cette chose-là qui, pendant très longtemps, pour moi, a été très confrontante de me dire « c'est quoi le problème des autres ?» dont je voyais manifestement que l'écrasante majorité ne pouvait pas agir avec moi comme avec un être humain. Que leur perception, c'est que j'étais une noire et que c'était vraiment quelque chose de déshumanisant. C'est-à-dire que j'étais plus un individu. J'étais un ensemble de projections de ce que ces personnes s'imaginaient être les noirs. Et ça, c'est, je dirais, plus que la colère, et je pense ça, je m'en suis rendu compte en thérapie, la colère, c'est aussi... C'est une émotion qui permet de ne pas céder à la dépression, en fait. C'est une émotion qui, en tout cas pour moi, a longtemps été calée sur toutes les autres, parce que si j'étais vraiment face à mon désespoir, à ma tristesse de pas être vue comme un être humain, de jamais être considérée comme Amandine, mais comme la noire, ça, il y a pendant très longtemps, je pouvais pas y faire face, en fait. C'était un espèce de puits sans fond d'horreur, de tristesse, de désespoir auquel je pouvais pas faire face. Et dessus s'est mis la colère, parce que la colère, c'est le désir de revanche. C'est le désir de prouver que, je suis pas un singe, je suis pas machin, je suis pas truc, donc du coup, je vais être la première de la classe, je vais ci, je vais ça, je suis très compétitive. Et donc, pendant très longtemps, ça m'a porté aussi. Ça m'a permis de faire face à ce monde violent qui m'attribuait des caractéristiques qui n'étaient pas les miennes, qui me méprisaient, qui me traitaient avec condescendance, violemment, etc. C'est juste que la colère, ça vous amène jusqu'à un certain endroit. Et à un moment donné, il est devenu manifeste que ce besoin de revanche, et d'ailleurs comme pour beaucoup de gens en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour où j'ai un peu atteint tous mes objectifs, là je me suis rendu compte qu'en fait j'allais mal. Je me suis rendu compte que j'étais très triste. Qu'il y avait quelque chose, et que donc ce que je m'étais raconté qui allait venir réparer la violence vécue dans l'enfance, donc des formes de succès, de reconnaissance de mon travail, de liberté aussi qu'on acquiert quand on devient majeur, etc. En fait, j'étais vraiment malheureuse. Et là, du coup, il y avait besoin de faire autre chose. Et donc oui, je pense que c'est plus, pour moi, c'est le monde extérieur qui a été vraiment difficile et qui m'a amené à m'accrocher à la colère comme moyen de rester en vie. Pour moi, ma singularité maintenant, c'est une force. Quand on est une artiste, quand on crée, avoir un point de vue qui est très particulier, c'est un point fort. Donc en fait, tout ce qui pendant des années pour moi était un drame parce que j'arrivais jamais à rentrer dans les groupes, j'étais tout le temps marginale, même dans les marges et tout, maintenant c'est super. Maintenant je me dis, ah bah ouais, j'ai un point de vue très spécifique sur le monde, et donc du coup, à partir du moment où il devient légitime pour moi, à partir du moment où effectivement, mais ça c'est aussi la thérapie qui me permet d'exister en tant qu'individu. C'est-à-dire qu'au final, même moi, j'ai été déshumanisée par la suprématie blanche dans cet endroit où j'arrivais pas à me penser comme individu, où j'arrivais pas à être heureuse, finalement, de ce qu'est ma singularité. Et donc, comme je n'arrivais pas non plus à être acceptée par des groupes, puisqu'effectivement, je suis une noire bizarre à plein d'endroits, ben là, il y avait quelque chose de très désespérant. À partir du moment où je me dis, ben oui, ben je suis un individu et je peux interagir avec différents groupes et ne pas en faire partie complètement, etc. Là, du coup, je suis très bien. Et effectivement, ben, je suis très bien parce que moi, maintenant, je dirais que mon identité, c'est que je suis une artiste. C'est que, en tout cas, je suis quelqu'un qui écrit, voilà. Et donc ça me permet d'être très au calme, finalement.
Mississippi Goddam is our last tune we had some requests for. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddam. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi Goddam. Can't you see it? I know you can feel it. It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's got me so upset, and Governor Wallace has made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi Goddam. Hound dogs on my trail. School children sitting in jail. Black cat crossed my path. I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on the land of mine. We all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing in prayer. Don't tell me, I'll tell you. Me and my people just about do. I've been there, so I know. They keep on saying, go slow. That's just the trouble.
Do so.
Washing the windows.
Do so.
Picking the cotton.
Do so.
We're just plain rotten.
Do so.
We're too damn lazy.
Do so.
I think it's crazy.
Do so.
Where am I going? What am I doing? I don't know. I don't know. Just try to do my very best. It's a communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. You lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady, and you'd stop calling me Sister Sadie. But my country is full of lies. We all gonna die and die like flies. I don't try.
trust nobody anymore. They keep on saying go slow. That's just the trouble.
So.
Desegregation.
Petite blanc dans du poil sous les bras.
J'envie un peu Amandine Gay de se livrer à nous avec autant de sincérité. Moi parfois je m'emballe, je me dis ouais, je vais faire pareil, je vais dire que, et puis je flanche. Non, c'est mort, je vais pas avouer mes petits péchés, mes addictions, mes gros mensonges. Bon, peut-être que c'est dommage. Peut-être que ce livre, Vivre libre, c'est aussi une invitation à parler de soi pour mieux s'accepter.
Moi, souvent, ce que je dis, c'est que je peux pas m'exprimer sur certains sujets tant qu'ils sont pas... Alors maintenant, je dirais plus réglés. Avant, je disais tant qu'ils sont pas réglés pour moi. En fait, c'est jamais réglé. Mais tant que je suis pas en paix avec. Et je pense que la thérapie aussi, ce que ça m'a amené, et je le dis beaucoup, c'est la perspective du rétablissement. Moi, pendant très longtemps, j'ai été désespérée par le fait de pas guérir. D'avoir ces moments où j'ai l'impression d'aller mieux. Et puis en fait, moi, par exemple, un de mes trucs, c'est que je claque l'argent. Ça, c'est un vrai problème de toutes mes... Bon, moi, en fait, je suis une personne qui a une propension aux addictions. Et en fait, ce qui est terrible quand on a une propension aux addictions, c'est qu'elle se manifeste de différentes façons. Et donc, en fait, il y a toujours une nouvelle. Donc, j'ai eu les drogues parce que voilà, ça, c'est le truc qui vient comme le plus facilement, etc. Et l'addiction dont j'ai du mal à me départir encore aujourd'hui, et donc dont j'ai appris qu'en fait, toute ma vie, je dois remettre des processus en place. Par exemple, actuellement, je n'ai plus de carte bleue dans mon portefeuille, parce qu'en fait j'avais réussi à reprendre une carte bleue il y a peut-être 2 ans et demi, parce que j'avais vu que j'étais solide et que je faisais pas n'importe quoi. Et puis cet été j'ai dû admettre que non, j'avais recommencé à faire couler la planche à billets. Donc je retire 200 euros par mois et j'ai le droit de dépenser en argent de poche 200 euros par mois. J'ai 41 ans, j'aimerais beaucoup ne plus en être là. Malheureusement j'en suis toujours là, et donc ça c'est un vrai truc. Moi maintenant j'ai admis que je peux me canaliser. J'ai une application où je suis, où je traque ma consommation d'alcool. Parce que, donc, j'ai des règles qui sont, je ne bois pas plus de 3 jours par semaine, et j'essaie de pas dépasser 2 verres quand je bois, etc. Ça peut arriver que je dépasse, ça peut arriver que j'ai, voilà, la semaine de lancement du livre, qui était presque la semaine de mon anniversaire. Laissez-moi vous dire que c'était orange-rouge tous les jours sur le truc. Donc, c'est aussi le truc de, aussi travailler la compassion envers soi-même. C'est-à-dire que moi, déjà, j'avais ce truc parce qu'il y avait toutes ces projections négatives sur les personnes noires où j'avais l'impression que je devais être parfaite. Donc, c'était très compliqué aussi de devoir donner une certaine image en public en sachant qu'au fond, j'étais flinguée, je faisais n'importe quoi, je brûlais mon argent, je me défonçais la couenne, etc., etc. Donc, ça a été une phase de ma vie qui était très compliquée, de devoir projeter cette image de la femme noire en public et tout, en sachant que moi, j'étais au bord du suicide en permanence. Et c'est très fatigant. Et donc, c'est vrai que avancer en sortant d'une vie qui est dirigée par la peur, et la peur de soi-même en fait. Moi je veux dire, la personne qui me faisait le plus peur au monde, c'était moi. Moi je me disais voilà, je vais exploser en plein vol, c'est une question de temps, voilà, c'est demain, ça arrive, etc. Et c'était, du coup c'est dur de créer aussi là-dedans, de créer dans cet état d'esprit-là. Donc voilà, pour moi l'enjeu c'est, une fois que je suis au clair avec ce qui me travaille, me rend la vie difficile, là où je suis en échec, etc., bah là, je peux en parler. Parce qu'après, en fait, je veux dire, bah, tout le monde est comme ça, au fond. Et du coup, et en fait, le plus dur, c'est de pas pouvoir en parler. Le plus dur, c'est de devoir faire genre, non, ça va. Quand en fait, ça va pas. Donc voilà, moi, pour moi, rien est hors de la table, comme disent les anglo-saxons, là, off the table. C'est juste que, avant que je le mette dans l'espace public, il faut que je me sente assez solide y compris de dire bah là j'y suis pas, peut-être que j'y serai ou peut-être que j'y serai jamais. Là par exemple, effectivement, il semblerait que dans les addictions, la question de l'argent, ça fait partie des choses les plus difficiles à enrayer quand on a ça. Et donc il se peut que dans mon cas, je doive toute ma vie me checker et mettre des trucs en place. Et c'est pas grave, ce sera comme ça.
Amandine Gay nous livre donc beaucoup de son intimité. Et en tant que personnalité publique, visible, elle est une source d'inspiration. Je me suis demandé si elle sentait cette responsabilité désormais en tant que modèle, probablement pour certaines ou même peut-être pour certains.
Peut-être que ce qui est déroutant pour moi, c'est qu'en fait aussi, dire tout ça, c'est dans l'espoir de pas devenir un modèle. Tu vois, c'est au contraire... Et là, je pense, c'est peut-être parce que je suis noire, qu'on n'est pas beaucoup de femmes noires dans l'espace public. Très vite, il y a beaucoup de projections aussi qui sont faites sur toi dans la communauté noire, de par des jeunes femmes noires et tout. Moi, ça m'a beaucoup angoissée. Déjà, ça m'a effectivement beaucoup angoissée de par le fait que j'avais vraiment beaucoup de pics suicidaires, de pics dépressifs et de pensées suicidaires, etc. Et donc moi, comme j'ai un truc de me sentir très responsable, je me disais... Oh, c'est le jour où je vais me foutre en l'air, ça va être une catastrophe. Et du coup, je me sentais mal. Tu vois, je me disais, en fait, tu peux pas faire ça à la communauté, etc. Bon. Moi, c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose dans ma démarche qui est de dire, voilà quoi, moi, je suis pas un modèle. Je fais du mieux que je peux. Je vais pas bien, comme vous toutes. Voilà. Et faudra pas m'en vouloir si un jour je jette l'éponge, j'aurais tout donné. Et voilà. Donc, c'est plus ça, en fait. Je me dis, ah merde, ça marche pas. C'est... L'objectif, c'était de dire, genre, voilà, moi, juste, je suis là, je fais mon truc, mais je peux pas vous servir de modèle parce que j'ai pas cette solidité-là, tu vois.
Vivre libre, c'est une proposition que nous fait Amandine Gay. Elle nous souhaite de vouloir une société plus accueillante et apaisée. Et nous, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à Amandine Gay ?
Eh bien ça, je dois dire qu'avant, c'était une des choses qui m'angoissait le plus au monde et qui me fait très plaisir de le vivre comme un truc chouette. C'est que là, je veux vraiment d'abord me reposer. Et en fait, justement, comme je considère que jusqu'à ce livre, j'ai quand même passé ma vie à être beaucoup déterminée par la peur, le besoin de faire, mais parce que pour exister, etc. Là, je suis très curieuse de voir ce que va être cette nouvelle partie de ma vie où je vais pouvoir créer à partir de ce que j'ai envie de faire. Ou peut-être je vais rien faire pendant quelques temps. Parce que, justement, aussi, en tant qu'artiste, on a besoin de se nourrir. Moi, ça fait quand même 10 ans, là, que je suis sur le pont, que je pousse beaucoup, et en fait, par exemple, je lis plus pour le plaisir, parce que je fais que lire pour le travail. Je vais quasiment plus au cinéma. Ça fait un siècle que j'ai pas été au théâtre. Je vois plus beaucoup de concerts, et avant, ça, c'était ma vie. Moi, quand j'étais plus jeune, ma vie, c'était les sorties culturelles, les voyages avec mon sac à dos. Là, par exemple, on peut me souhaiter un mois au Vietnam avec mon sac à dos. C'est un truc dont je rêve depuis un bon moment et que je vais faire bientôt, là, dès que j'ai les sous. Voilà, de, tu sais, procrastiner, rêvasser. Tu vois, là, j'ai régulièrement des moments... En fait, bon, je fais pas mal de méditation guidée. Et il y en a une, ça dit de s'imaginer dans la pièce qui est la plus créative pour nous, un souvenir qu'on a. Et moi, un souvenir qui me revient beaucoup en ce moment, c'est en fait quand je suis partie en Australie, j'avais 21 ans, et c'est la première fois que je partais très loin, quelque part où personne me connaissait, etc. Et il y avait un café, et j'ai découvert, et eux, ils étaient très en avance sur les cafés, là, un peu genre macchiato, machin, les trucs, latte et tout. Et il y avait un café que j'adorais, qui était baigné de soleil, etc. Et à l'époque, j'écrivais encore des poèmes, voilà, ce que j'ai pas fait, là, je pense, depuis presque 2 décennies, quoi. Et donc, je passais des après-midi dans ce café à vraiment faire le chat au soleil, à écrire des poèmes, à boire des cafés, à manger des cheesecakes. Et j'aimerais tellement retrouver ça, là.
Parce qu'un jour, alors, du coup, on aura l'occasion de lire des poèmes d'Amandine Gay.
Mais c'est possible. Des poèmes, des nouvelles. Tout est ouvert.
Vous connaissez désormais un peu mieux Amandine Gay et vous avez envie de vivre libre et de lire Vivre libre. Mais ce que vous ne connaissez pas encore d'Amandine Gay, c'est son rapport à ses poils. Qu'as-tu à nous dire, Amandine, de tes poils ?
Alors moi, mon rapport à mes poils, ça fait quand même une bonne décennie là qu'il est stable. C'est-à-dire que ma routine, c'est que j'ai des poils sous les bras, j'ai des poils à la vulve, mais je m'épile quand même l'extérieur du maillot parce que je trouve ça plus joli, voilà. Je fais aussi l'interfessier parce que je trouve ça plus doux, voilà, j'aime bien la douceur entre mes fesses. Et je fais mes jambes, mais quand j'ai le temps. Donc là, typiquement, en fait, je le fais pas, mais ouais, moi je suis très branchée, avoir quand même le corps lisse et tout à certains endroits, mais aussi à d'autres endroits, je trouve que c'est quand même plus érotique d'avoir des poils, donc voilà, je choisis les endroits où j'en ai et où j'en ai pas.
C'était du poil sous les bras et c'était surtout la première fois d'Amandine Gay à foie, et probablement pas la dernière, en tout cas je l'espère.
Oui, c'est ma première fois à foie. Apparemment, il y a une chanson.
Oui, il était une fois dans la ville de Foix, une marchande de Foix.
Je ne connaissais pas, et du coup j'ai dit à une pote, je vais à Foix, là, à la librairie, tout me dit, oh là là, ça me rappelle trop la comptine, maintenant j'ai dans la tête et tout, je suis en mode genre je la connais pas, mais je veux pas savoir, parce que je sens que c'est le truc qui te reste dans la tête, donc voilà, j'ai découvert que vous étiez célèbre.